France Culture.
L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir Estelle Kammerer.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. Au 9e jour de guerre entre l'Iran et Israël, à Berlin, des manifestants pro-Iran se sont mobilisés cet après-midi. Nous irons sur place au début de ce journal. Les Européens sont entrés dans les négociations avec l'Iran, malgré les critiques de Donald Trump. Emmanuel Macron parle même d'accélérer les discussions. Le phénomène du live streaming prend de l'ampleur. Des viols d'enfants commandités en ligne depuis les pays occidentaux, dans les pays étrangers. Un suspect français a été arrêté. Paris serait-elle la nouvelle ville de la fête? Pour la fête de la musique, aujourd'hui, anglais, allemands et néerlandais débarquent dans la capitale, mise en lumière depuis les JO l'année dernière. À Berlin, près de 1500 personnes venues de toute l'Allemagne se sont rassemblées devant la mairie de la capitale à l'appel du Conseil de la résistance iranienne. Les manifestants réclament un changement de régime, mais sans intervention étrangère. Sébastien Baer était dans la foule.
Une forêt de drapeaux de la résistance iranienne avec le lion et son épée et la couleur jaune partout. Sur les gilets, sur les t-shirts marqués du slogan « Free Iran », Iran libre, c'est le message de Ali venu de Hanovre.
On ne veut pas de guerre, pas d'intervention israélienne ou américaine. Le peuple iranien doit résoudre lui-même les problèmes. C'est à lui de renverser le régime et cette dictature en Iran. Et nous réussirons.
Les négociations, les pourparlers, tout cela ne sert à rien, affirme Javad Dabiran, le porte-parole du Conseil de résistance iranienne.
Ce n'est qu'une perte de temps. Il faut rompre les relations avec le régime. Il ne respecte aucune négociation, aucune règle internationale. Le régime s'obstine à vouloir l'arme nucléaire. Cela ne mènera qu'à la guerre.
Dans la foule, Baman, 65 ans, qui vit en exil depuis 20 ans à Nuremberg, s'inquiète de ne pas pouvoir joindre ses proches. Sa famille est à Téhéran.
Quand j'appelle, je dois essayer 20 fois pour que ça fonctionne. Mais la connexion n'est pas bonne, on n'entend rien et après ça coupe. Il n'y a pas d'internet. Les Mollahs bloquent les communications, ils veulent tout contrôler. Tout ça me rend fou.
Ces dernières heures, Baman a pu contacter l'un de ses proches. Les nouvelles ne sont pas bonnes, pas d'essence, pas d'abri. Ma famille est comme prise au piège, dit le vieil homme.
Et à Londres, des dizaines de milliers de manifestants étaient également dans les rues, appelant leur gouvernement à arrêter d'armer Israël. En France aussi, des milliers de personnes ont protesté au salon du Bourget cet après-midi contre l'économie de guerre en Iran et à Gaza et le business de la mort, pouvait-on lire sur les pancartes. En Iran, le gouvernement rapporte de puissantes explosions dans le sud-ouest du pays. Un site de production de centrifugeuses utilisé pour enrichir l'uranium a également été touché, sans conséquence en termes de radiation, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Au 9e jour de la guerre, le bilan est de plus de 400 morts en Iran, en majorité des civils, selon le gouvernement. Et du côté des négociations avec Téhéran, l'Iran estime que les propositions soumises hier à Genève par les Européens sur le programme nucléaire iranien sont irréalistes. Mais les Iraniens vont tout de même examiner l'offre et donneront leur réponse lors de la prochaine rencontre. Donald Trump a estimé que les Européens n'avaient rien à faire dans ces négociations. Emmanuel Macron a réagi à la mi-journée, affirmant le contraire. Virginie Pierronon, bonsoir.
Bonsoir.
La France et ses partenaires européens vont même accélérer les négociations engagées avec l'Iran. C'est ce que dit aujourd'hui le président français.
Oui, au lendemain de la rencontre de Genève, c'est ce qu'affirme le président français à l'issue d'un coup de téléphone avec son homologue iranien. Dans un message sur X, anciennement Twitter, Emmanuel Macron dit avoir prévenu Massoud Pezeshkian, je le cite, de sa profonde inquiétude concernant le programme nucléaire iranien. Le président français assure que l'Iran ne devrait jamais avoir l'arme nucléaire et que Téhéran devra donner toute garantie que ses intentions sont pacifiques. Le chef de l'État, qui a une nouvelle fois exigé la libération sans condition des ressortissants français Cécile Kohler et de son compagnon Jacques Paris, détenu depuis 3 ans dans la prison d'Evine, au lendemain des discussions de Genève menées par les Européens avec Téhéran, moqué par Donald Trump qui estime, je le cite, que l'Iran ne veut pas parler à l'Europe mais avec les États-Unis. Ces déclarations d'Emmanuel Macron veulent précisément prouver le contraire. Pour le moment, l'Iran écarte toujours toute reprise des discussions avec Washington tant que les missiles israéliens continueront à s'abattre sur son territoire. Or, Donald Trump ne semble pas prêt à demander à son allié de cesser ses attaques.
Merci Virginie Pierronon pour ces précisions. Une figure de l'opposition au régime en Biélorussie vient d'être libérée avec 13 autres prisonniers politiques. Le blogueur et dissident Sergueï Tiganovski était emprisonné par le régime depuis 5 ans. Il avait été arrêté après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle face au président biélorusse Alexandre Loukachenko à la tête du pays depuis plus de 30 ans. C'est un phénomène qui prend une dimension inquiétante, ce qu'on appelle le live streaming. Des viols d'enfants commandités en ligne depuis les pays occidentaux sur des mineurs à l'étranger, puis visionnés en direct. Dernier exemple en date, un Français d'une cinquantaine d'années a été présenté à un juge en vue de sa mise en examen hier soir. Soupçonné d'avoir commandité entre 500 et 600 viols sur une fratrie en Colombie pendant 4 ans. Un phénomène qui a émergé depuis le Covid et qui depuis ne fait que prendre de l'ampleur. Pleure Margot Steve.
Oui, tellement qu'il est presque impossible de donner un chiffre. Noémie Metzger est l'une des référentes sur le live streaming au parquet de Paris.
C'est vrai que nous, on remarque un décalage puisque c'est un phénomène qui est encore aujourd'hui assez peu connu, alors que nous, dans notre pratique quotidienne, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement courant. On a énormément de signalements qui nous parviennent en indiquant qu'il y a des personnes qui pratiquent ce phénomène de live streaming.
S'il y avait assez d'effectifs, on pourrait interpeller en France une personne par jour, résume ceux qui travaillent sur ces dossiers. Actuellement, les enquêteurs de l'Office mineur ont dans leur viseur plusieurs centaines d'auteurs potentiels, mais faute de moyens, seule une dizaine d'enquêtes sont ouvertes en France. Pourtant, on parle ici de faits très graves, explique Noémie Metzger.
On entend souvent, c'est une défense qu'on peut entendre, qu'on est dans le virtuel, que les victimes elles sont loin et qu'il y a un côté abstrait, mais en fait, il n'y a absolument rien d'abstrait. On n'est pas sur une consultation de dessin animé. Les victimes qui sont mineures de ces viols, elles existent et elles subissent les viols qui sont filmés pour la satisfaction d'une personne qui paye pour les visionner.
Des victimes souvent très jeunes, la plupart ont moins de 10 ans, souvent agressées par leurs proches dans des familles très précaires, aux Philippines, mais aussi désormais en Colombie ou à Madagascar.
C'est vraiment une exploitation de cette misère-là, du fait qu'on a des familles qui sont prêtes à tout, notamment à violer parfois dans le cercle familial, pour avoir de l'argent, puisque cet argent, dans tous les cas, il permettra de manger, de se loger, de répondre à des besoins vitaux.
Alors pour endiguer ce phénomène, les autorités misent notamment sur des peines très lourdes pour les commanditaires de live streaming. Désormais, ils encourent jusqu'à 20 ans de réclusion, considérés comme complices des viols commis sur les jeunes victimes.
Margot Steve. Mohamed Lamine Abeyrouz, condamné en appel à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. La cour d'assises spéciale de Paris confirme la condamnation du franco-marocain de 31 ans pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile à Magnanville en 2016. Ses avocats ont annoncé le pourvoi de leur client en cassation. Cette année, la fête de la musique s'est imposée comme un événement incontournable à l'échelle européenne. Sur les réseaux sociaux, des Anglais, Allemands et même des Hollandais ont annoncé leur venue, principalement à Paris. Bonsoir Lou Momej.
Bonsoir Estelle.
Il faut dire que les Jeux Olympiques de l'an dernier ont remis Paris sur le devant de la scène comme la ville de la fête.
Oui, un engouement olympique qui a marqué les esprits et permet aujourd'hui d'attirer un public européen pour la fête de la musique. Les réservations de logements pour le week-end ont même doublé dans la capitale sur la plateforme Airbnb. Les touristes l'ont bien compris. Paris est une fête, analyse Frédéric Ocard, adjoint à la mairie en charge du tourisme et de la vie nocturne.
Le monde entier a vu ce qu'on a fait pendant la cérémonie d'ouverture et ce qui se produit, c'est que maintenant les gens viennent pour faire la fête et pour faire la fête la nuit. Moi, j'ai des boîtes de nuit qui me racontent que maintenant, il y a un tourisme de vie nocturne, un tourisme de fête à Paris. C'est assez nouveau. Paris, c'était plutôt des images un peu clichés du type Emily in Paris, par exemple, plus romantique. C'est maintenant en train de devenir une des villes, c'est pas la seule évidemment, hein, mais c'est une des villes de la fête.
Avec plus de 400 établissements ouverts après 2h du matin dans Paris, les touristes ont de quoi faire. Mais ce qui les attire aussi, c'est de pouvoir profiter du patrimoine de la ville, explique Emmanuel Lallemand, anthropologue des fêtes urbaines.
Les fêtes, notamment à Paris, sont là pour confirmer que cette ville a cette capacité à avoir des usages de réversibilité, je dirais, réversibilité des espaces. On s'est transformé le temps d'une nuit, le temps d'un été avec Paris Plage, le temps d'une grande fête du sport avec les JO. On s'est transformé la ville et on s'est transformé les usages pour ensuite revenir à quelque chose de beaucoup plus ordonné, de beaucoup plus traditionnel et qui revient évidemment dans une forme de quotidien de la ville.
Emmanuel Lallemand pointe toutefois un paradoxe face à cet engouement autour de la fête de la musique, un événement ponctuel mais promu par le gouvernement, alors qu'elle le rappelle ces derniers temps, d'autres types de rassemblements comme les manifestations sont de plus en plus réprimés.
Merci Lou Momèche pour ses explications. Et la musique française, en particulier l'électro, n'aurait rien à envier à celle de Berlin. Emmanuel Macron veut inscrire la French Touch, ce courant qui réunit les grands noms de l'électro-française, à la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il l'a affirmé dans un entretien à Radio FG. Et si vous fêtez la musique ce soir, faites attention à la chaleur. Les températures restent encore hautes dans la soirée, entre 27 et 30 degrés sur la majorité du territoire, avec des risques d'orage dans le Var. C'est la fin de ce journal, réalisé par Caroline Beneteau.